Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Dans un instant, Bernard Godard sera avec nous, spécialiste de l'islam au ministère de l'Intérieur entre 1997 et 2014. Mais tout de suite, qu'est-ce qui fait parler ce matin? Il a revue de presse avec Benjamin
Kess. Oui, Benjamin, c'est tout d'abord le malaise des enseignants hein, qui est à la une de beaucoup de journaux.
Oui, notamment du Figaro. Les enseignants refusent d'être des martyrs laïcs après la décapitation de Samuel Paty. Ça devait se passer. Je pensais même que ça arriverait plus tôt, raconte un premier professeur. Un autre connaît faire de l'autocensure depuis une dizaine d'années sur tout ce qui touche à la Bible ou au Coran, même quand c'est au programme. Toujours dans le Figaro, une enseignante d'espagnol dit avoir entendu déjà ses élèves affirmer que les Arabes ont conquis l'Espagne pendant 7 siècles et qu'ils sont en train de faire pareil avec la France. En marche sur des braises tout le temps, confirme un autre enseignant, cette fois-ci dans Libération. On sait qu'aborder certains thèmes peut nous mettre face à des difficultés. Alors oui, on y réfléchit à deux fois.
Oui, c'est ça. Et puis il y a d'autres enseignants dans Le Parisien aujourd'hui en France hein, qui brisent l'omerta. Dans Le Parisien aujourd'hui, où il y a Brigitte Macron qui prend la plume aussi.
Ouais. Hein. Bah oui, la première dame qui sera absente ce soir à la Sorbonne et pour cause, elle est cas contact. Elle a donc écrit une lettre adressée au professeur assassiné vendredi. Être prof, écrit celle qui était aussi une ancienne professeure de français. Être prof, c'est entrer dans une classe et s'y sentir à sa juste place. C'est repérer une lueur qu'on a pu allumer dans les yeux des élèves. C'est aussi repérer quand ils décrochent, aller les récupérer. Témoignage donc de Brigitte Macron à retrouver dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Oui, et tout autre chose. Alors, c'est un scandale qui est dans la dépêche du midi ce matin. Possible scandale aux pompes funèbres.
Bah oui, c'est incroyable, un des témoins qui dénonce à la dépêche de graves dysfonctionnements aux pompes funèbres de Toulouse Métropole, évoquant des corps maltraités ou mutilés, carrément des dizaines d'urnes entassées depuis 2007 et des locaux souillés. Mais la mairie de son côté un dément, elle estime pour le coup qu'il s'agit de dénonciations calomnieuses. Il y a aussi du Covid à la une de la presse ce matin, notamment du côté de Nice Matin, avec un titre plutôt inquiétant, réanimation quasi saturée dans les Alpes-Maritimes. On sait, c'est un message qu'on a aussi ailleurs. Et dans le même temps, l'indépendant catalan précise que dans les Pyrénées-Orientales, il y a déjà une pénurie de vaccins contre la grippe. Les pharmaciens croulent sous la demande et beaucoup sont déjà en rupture de stock, une situation qu'on trouve aussi ailleurs en France, bien sûr.
Oui, c'est vrai. Bah, tiens, on va aller du côté, justement, de la République des Pyrénées, de l'autre côté, du côté de Pau, notamment, avec Nicolas Rebière, rédacteur en chef. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Le Covid, vous en parlez, justement, enfin, des conséquences hein, à la une du journal, avec la fermeture des bars à 22h dans les Pyrénées-Atlantiques. Hein.
Oui, tout à fait. Longtemps, le Pays Basque et le Béarn se sont sentis un peu éloignés de la question, en tout cas pas trop concernés, parce que les taux d'incidence étaient relativement bas, jusqu'au mois d'août en fait, jusqu'à la fin août. Et puis ils ont commencé à monter, on les a vus monter, hein, on a vu cette deuxième vague arriver, et désormais elle est là, puisque les Pyrénées-Atlantiques, là, affichent le taux d'incidence, est-ce qu'il y a besoin de rappeler ce que le taux d'incidence, le nombre de cas positifs, est de 224,2. Alors c'est légèrement, c'est moins que la moyenne en France. En revanche, c'est le record en Nouvelle-Aquitaine qui avait été elle aussi relativement préservée. C'est pour ça que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de remettre un tour de vis. Cette fois-ci, ce sont les bars qui vont devoir fermer à 22h. Alors il prévient, c'est jusqu'au 5 novembre. Et si le taux d'incidence rebaisse, peut-être qu'il lèvera la mesure. En revanche, si ça monte, évidemment, il pourrait envisager de prendre de nouvelles mesures. Pour l'instant, par exemple, il interdit les fêtes locales. Et surtout, il ferme les vestiaires. C'est arrivé dans d'autres départements, mais pas chez nous, en tout cas, depuis le début de la saison de la reprise des championnats, les vestiaires de clubs amateurs restaient ouverts. Et désormais, ils seront fermés.
Voilà. Ah bah non, mais à ce propos, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Hier, j'ai vu, ou ce week-end, dans la presse du côté de Toulouse, cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Vous l'avez vu? Des joueurs de rugby qui ne pouvaient pas aller buter UC Toulouse, qui ne pouvaient pas aller dans les vestiaires, voilà. Ils sont changés.
Je trouvais ça très bien, moi.
Ah bah oui, Cécile a adoré.
Exactement, ça peut faire venir du monde au stade, hein, dimanche, ça c'est clair.
Mais moi j'ai pris mon billet, je vous le dis tout de suite.
On va voir comment les clubs vont s'adapter, évidemment. Hein. Ouais. Mais ça aussi, c'est une nouvelle mesure qui touche, on va dire, le quotidien des habitants des Pyrénées-Atlantiques, qui jusqu'à présent ont été peu touchés, sinon par les mesures, on va dire, décrétées nationalement, et par quelques obligations de porter le masque, notamment dans les principales villes, c'est-à-dire à Pau, mais également du côté de Bayonne, de Biarritz et de Anglet. Là, la fermeture des bars à 22h, c'est C'est un cran de plus. Alors évidemment, vous à Paris, finalement, vous en rêveriez peut-être, mais ça vient nous dire que le virus est là, il circule. On le sait aussi puisque la Navarre, de l'autre côté des Pyrénées, mais qui est frontalière avec notre département, elle a décidé de fermer partiellement ses frontières avec un taux d'incidence de 945, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Et donc, elle a pris cette mesure qui va prendre effet jeudi, d'ailleurs, comme les mesures annoncées par le préfet dans les Pyrénées-Atlantiques.
Oui, c'est vrai. Et puis, je signale au passage, hein, Nicolas Robière, qu'il y a quand même, pour beaucoup de restaurateurs, ça devient de plus en plus compliqué. Hein, dans toute la France, aujourd'hui, obligé de fermer, et puis il y a moins de monde dans les restaurants. Et ça devient extrêmement tendu. Hein. Demain, d'ailleurs, on redonnera la parole justement à l'ensemble en fait, de la profession, évidemment. Merci, hein, Nicolas Robière, d'avoir été avec nous, c'est-à-dire dans la République des Pyrénées, ce matin.
Et ce matin, le petit déjeuner de l'actualité, toujours avec Arlette Chabot. Et ce matin, Bernard Godard, qui est avec nous, spécialiste de l'islam au ministère de l'Intérieur jusqu'en 2014, auteur de la question musulmane en France, un état des lieux sans concession, aux éditions Fayard. Comment les milieux islamistes ont précipité l'assassinat de Samuel Paty?
Oui, bonjour Bernard Godard.
Bonjour.
Avant d'élargir peut-être en fait à l'ensemble des réseaux, vous qui connaissez bien et qui suivez aussi de près toutes ces enquêtes, qu'est-ce que l'on sait là aujourd'hui? Parce qu'il y a une note des renseignements qui a été publiée par le journal La Croix, émise quelques jours avant l'assassinat de Samuel Paty, qui concerne la menace qui pesait sur le professeur. Et on se demande, mais comment se fait-il qu'il n'y a rien eu de véritablement, je dis, hein, parce qu'il y a quand même eu quelques décisions peut-être, mais de décisions pour le protéger?
Non, parce que si vous voulez, la menace, c'est pas une menace physique d'assassinat qu'il y avait. Il y avait simplement une pression sur ce professeur, en particulier par un parent d'élève qui était visiblement un salafiste confirmé, et puis par un agitateur bien connu depuis une trentaine d'années qui est venu s'adjoindre. Et là, donc, cela, on le connaissait. Mmh. Et puis, il y avait effectivement cette pression qu'on a connue, mais il y a plusieurs fois, c'est-à-dire par des parents d'élèves qui se profitaient, si vous voulez, de ce contexte de crise. Et là, en l'occurrence, c'était le fait de montrer des caricatures du prophète aux élèves. Oui. Et donc, avait saisi l'occasion pour aller faire des pressions. Oui. Mais le fait que quelqu'un allait venir pour l'assassiner, c'est une autre chose. Oui. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler d'informations précises en ce sens.
Oui, oui, voilà. Oui, c'est ça. Mais Abdelhakim Sefrioui, c'est à lui que vous faites référence, le prédicateur. Oui. Islamiste, un spécialiste, il est spécialiste quand même des coups de pression, hein, on l'a vu à quelques reprises. Est-ce qu'il a joué vraiment un rôle déterminant dans cette chasse à l'homme? Et est-ce qu'on n'aurait pas pu, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, le maîtriser un petit peu plus tôt?
Le problème avec ce personnage, c'est qu'il a toujours, et ça depuis presque une trentaine d'années, il a toujours été à la limite. C'est-à-dire qu'il n'a pas été possible de l'inculper pour des troubles. Ça aurait pu se faire pour le trouble à l'ordre public, ça, oui. Ça, je me rappelle qu'en deux occasions, ça aurait pu se faire, ça n'a pas été fait parce que c'était toujours pareil dans le contexte de l'islam, et on s'est dit, oh là là, ça va créer un trouble encore plus grand, hein, et donc du coup, il vaut mieux pas l'arrêter, l'inculper. Mais c'est vrai qu'il a toujours été limite. Il y a eu deux faits. Il s'est attaqué à Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris. Il s'est attaqué de manière assez virulente et assez malhonnête, on va dire, vis-à-vis de l'imam Chalgoumi à Drancy, dans Seine-Saint-Denis. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a entraîné des gens, il a essayé de provoquer des émeutes contre ces deux personnes, par exemple. Et c'est vrai que, bon, bah, on peut se poser la question de dire, surtout la deuxième fois, dans le cas de Dalil Boubaker, s'il ne fallait pas peut-être intervenir et trouver des inculpations possibles.
Oui. Oui. Mais alors Bernard Godard, pendant des années, près de 20 ans, vous avez travaillé sur l'islam et pour le ministère en fait, de l'Intérieur. Vous avez vu cette amplification. Est-ce qu'on a agi ou alors on était paralysé, on n'arrivait pas à agir? Comment vous avez pris la mesure en fait, des choses, vous Bernard Godard?
Mais parce que vous aviez un traitement quand vous allez sur le terrain, vous êtes obligé, par exemple, quand cet islamisme, comme on dit, ce fondamentalisme, ces interprétations très radicales de l'islam, quand ça débouche sur des actes terroristes, sur des actes violents. Non, depuis les années 80, il y a eu un dispositif antiterroriste très efficace qui a été encore peaufiné après les attentats de 2015. Donc sur la partie, si vous voulez, probablement judiciaire. Hein, quand ouais. quelqu'un peut être passé sur le plan judiciaire, être inculpé, etc., pour des menaces de mort ou alors carrément des actes terroristes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Les services de la DGSI, du renseignement territorial, par exemple, sont très vigilants à suivre tout ce qui peut être une manifestation qui va éventuellement déboucher sur un acte violent. Bon, mais ils ne peuvent pas tout couvrir et ça c'est normal. Ce qui est vraiment un peu inquiétant, c'est la proportion que ça prend chez les jeunes générations, et ça a été le cas dans les départs en Syrie entre 2014 et 2017, et ça l'est maintenant pour des gens qui eux ne n'ont plus le, si vous voulez, l'échappatoire de partir sur des théâtres d'opération, mais qui se livrent à des attentats sur notre territoire. Ça c'est véritablement inquiétant. Oui,
c'est vrai. Restez avec nous, Bernard Godard. Arlette Chabot, vous qui connaissez, qui avez suivi aussi beaucoup le monde politique depuis ces 20 ans, on avait l'impression qu'on mettait tout ça un peu de côté, on n'osait pas trop dire les choses, non ?
Je trouve que le cas de Sefraoui, et on écoute ce que dit à l'instant Bernard Godard, franchement, on aurait pu l'arrêter depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fout en France ? Pourquoi son collectif va être dissous ? Aujourd'hui seulement, on a raté des occasions. Et quand on voit que ce type, effectivement, est reçu au collège de Conflans-Sainte-Honorine, franchement, il n'avait rien à faire là. On aurait dû alerter, évidemment, la principale du collège et lui dire qu'on ne reçoit pas avec un parent d'élève ce type. Ce n'est pas juste la colère d'un parent contre les profs. Il arrive escorté. Et quand on sait que le père, il a aussi une histoire, il n'est pas nulle part. Ce n'est pas un parent d'élève lambda. Donc, il y a quand même quelque chose là qui ne va pas. Et quand j'entends effectivement Bernard Godard dire c'est des petites lâchetés, quoi. C'est-à-dire on va pas trop faire, on retombe toujours sur le même truc, on ne fait pas trop de vagues, il y a une ambiance, il y a un climat, on ne va pas l'aggraver, donc on laisse courir les gens, on sait qui ils sont et on n'intervient pas. C'est ça qui conduit au fond à la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Oui, et c'est là où on attend maintenant qu'il y ait des décisions politiques beaucoup plus fermes, quoi.
Ah bah ça, évidemment, il faut des décisions politiques un peu fermes. Alors, c'est, on va voir. Effectivement, ce que peut faire le gouvernement. Il faut modifier des lois. L'imam, ce n'est pas si facile, effectivement, comme dit Gérald Darmanin, de virer un imam. Surtout s'il est français. Surtout s'il a un enfant en France, même s'il est étranger. Donc, il y a plein de lois qu'il va falloir revoir. Il y a l'état de droit français qu'il faut préserver. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais en même temps, il ne faut plus avoir le côté...
La lâcheté.
Voilà, les petites lâchetés, ça doit être fini.
Est-ce que c'est de la lâcheté ou, comme le disait Arlette Chabot, à l'instant, Bernard Godard, c'était pas de vague, justement. D'essayer de ne pas trop secouer les choses pour que ce ne soit pas plus explosif à un moment donné.
Pas de vague par rapport, justement, reprenons l'exemple du personnage de Sefraoui. C'est vrai que on savait quand il avait créé un collectif qui s'appelait collectif Chak Yassine, et quand il est intervenu justement à Drancy ou à Paris. Parler de petite lâcheté, peut-être, mais simplement, on dit, ça trouve un ordre public, il a mené une prière interdite sur le parvis devant la mosquée de Paris, il s'est attaqué à Boubacar, mais pas du tout avec des menaces de mort, en disant, c'est pas un bon recteur, c'est-à-dire, il n'y avait pas d'éléments concrets qui auraient pu permettre son inculpation. Donc, dans ces cas-là, alors, moi, à l'époque, je dis, on utilise la loi de 1905 qui fait interdiction à un prêcheur de se prononcer sans l'accord de sa hiérarchie ou alors sans un signalement, sans le faire dans un lieu qui est dûment consacré à ça. Or, c'était le cas quand il a fait un prêche un peu sauvage devant la mosquée de Paris.
Donc, il faut modifier les lois ou être beaucoup plus ferme déjà dans l'application de celles qui existent aujourd'hui.
On peut appliquer, oui, voilà, exactement. On peut déjà appliquer les lois. L'arsenal est déjà, je ne dis pas largement disponible, mais il y a quand même des éléments qui permettent d'inculper les gens, oui.
Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Bernard Godard, spécialiste de l'islam au ministère de l'Intérieur entre 1997 et 2014, auteur de La question musulmane en France, c'était en 2015. Dans quelques minutes, on va recevoir aussi Bernard Ravet, ancien principal des quartiers nord de Marseille. Son livre, principal de collège, où imam de la République. C'est sorti en 2017 et c'est toujours ô combien d'actualité. Il sera avec nous et vous également, bien sûr, 0826-300-300. Vous avez entendu ce que vient de dire Bernard Godard, comme le relayait aussi Arlette Chabot, des petites lâchetés, etc. À un moment donné, on a laissé faire. Alors, certains vont dire c'est du laxisme, quoi, pendant des années qu'on est en train de payer au prix fort. Et ce n'est sans doute pas fini, comme nous le verrons aussi avec notre autre invité tout à l'heure, à 9h30. Guillaume Bigot. Ouais. Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française.
Ça mérite d'être clair.
Oui, c'est aux éditions Plomb, ça sort demain, il sera avec nous tout à l'heure à 9h30.
Restez là, 8h59, dans un instant, le journal de 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et le petit déjeuner de l'actu continue avec Arlette Chabot avec nous. Et puis, hommage national à Samuel Paty. L'intolérable doit cesser dès aujourd'hui. Bernard Ravet est avec nous, ancien principal des quartiers nord de Marseille, auteur du livre « Principal de collège » ou « Imam de la République » aux éditions Kéro en 2017. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Bernard Ravet, avant de voir ce que vous attendez de l'hommage national et peut-être aussi de cet électrochoc après l'assassinat-attentat de Samuel Paty, on rappelle que vous étiez dans les quartiers nord, proviseur, dans un collège, que vous avez vu les choses monter pendant des années. Mais est-ce que vous en parliez, en fait, à l'époque ? Parce que le rapport Robin, lui, date de cette époque, 2004, mais c'était plutôt dans la région lyonnaise, où il avait été alerté. Est-ce que les autres inspecteurs et vous-même étiez alertés par ce qui se passait, s'il se passait quelque chose ?
Alors moi, il se passait des choses, et en 2006, il se passe tellement de choses que je sais que, je sais qu'il y a un rapport en route, et je sollicite la venue de Jean-Pierre Robin dans mon établissement. On vit des choses déjà qui auraient dû être des signaux forts, puisque moi, Jean-Pierre Robin le raconte dans son rapport de manière anonymée, mais quand il a témoigné au moment de l'audition parlementaire après les attentats de Charlie, il raconte cette histoire du surveillant, qui était un de mes meilleurs surveillants, qui était suivi par les renseignements généraux, et on avait des petits livres d'obédience salafiste qui circulaient parmi les élèves de 5e. Donc, j'allais dire, moi, ce qui me révolte, et franchement, Samuel Paty, on va lui rendre hommage, et c'est vraiment la moindre des choses que l'État pouvait faire. Moi, j'attends beaucoup des mots du président de la République. Parce que si on n'a pas ces mots, ils doivent être à la fois un hommage de la nation, mais ils doivent être un signal fort. Vous savez, on est de tradition de parler des hussards de la République, mais les hussards, ils se battaient pour des idées. Là, cet homme est mort parce que simplement, il a fait son métier. Et je dis, il a été exécuté. Pour moi, ce n'est pas un attentat, ce n'est pas un assassinat, c'est une exécution. Et c'est l'exécution d'un homme, et moi, j'ai beaucoup de compassion pour sa famille. Mais d'un seul coup, c'est un signal horrible qui dit à tous ceux qui ont été mes profs et qui sont sur le terrain, et puis à mes collègues, chefs d'établissement, et puis dire, attention, on vous a à l'œil. Et ça veut dire que quelque part, dans un pays des libertés, dans le pays des Lumières, dans le pays de Diderot, de Rousseau, d'un seul coup, les enseignants qui ont été libérés de historiquement, moi je suis historien de formation, l'histoire de l'éducation, c'est quand même tout le 19e siècle, comment on libère l'éducation du poids du religieux. Et là, d'un seul coup, c'est un nouveau religieux qui apparaît, et c'est un religieux qui s'impose de l'extérieur. Moi, quand en 2006, j'ai des profs qui se font caillasser quand elles viennent au collège, parce qu'elles viennent en jupe et en robe, et que des jeunes du quartier les traitent de putes et de salopes pour des motifs religieux. J'ai entendu sur un autre plateau en me disant, oui, c'est normal, ça arrive à toutes les femmes dans la rue. Non, ces femmes, elles venaient travailler. Moi, j'ai vraiment un sentiment de révolte. Jean-Pierre Robin, d'abord les territoires perdus de la République, oui. Jean-Pierre Robin, on est un certain nombre de gens à avoir écrit dans les années 2017. Alors, il faut être honnête, il s'est passé des choses. Après l'attentat de Charlie, que ce soit Najat Vallaud-Belkacem et après Jean-Michel Blanquer, le discours de l'institution a changé. Mais ce qui est grave, c'est que dans les esprits, j'allais dire, on n'a pas fait rentrer des filles voilées, mais on est en train de mettre une telle pression, et dans son dernier ouvrage, Jean-Pierre Robin l'explique très bien, que les profs s'auto-censurent. Et là, dans un pays des libertés, on censure les caricatures, et on se rend sur les profs. Mais pour moi, c'est un drame. C'est un drame. Et moi, par-delà l'hommage, et moi j'ai deux messages. Un premier message qui s'adresse aux politiques, qui dit « Vos ancêtres, en 1905, ont été capables de fermer les congrégations, alors, je ne sais pas, aller consulter les archives du Parlement, essayer de relire leurs débats de l'époque. » Et puis, celui du chef d'établissement, qui est aussi devenu, à la retraite, militant de la LICRA, où vous savez que le problème de la mémoire. Et il serait important qu'il se passe quelque chose pour qu'on transmette ce héros qui a été assassiné aux enfants de demain. On a dès ce soir, dès que le président de la République aura parlé, on aura tous apporté un devoir de mémoire pour Samuel Paty. Mais dans Samuel Paty, c'est l'école qu'on a exécutée.
Oui, mais Bernard Havet, est-ce que ce n'est pas comme dans la société où finalement, pendant des années, on n'a pas osé dire les choses ? Il y avait comme un tabou, y compris au sein de la communauté éducative, qui est quand même divisée, parce qu'il y en a certains comme vous qui ont envie de briser en fait l'omerta aujourd'hui, vous l'avez fait en fait beaucoup plus tôt, et puis d'autres qui disent, oui mais sous couvert d'humanisme, etc., non, on ne peut pas dire ça, il faut enseigner avant tout la laïcité, ce sont des gens qui n'ont pas les même repère en fait que nous, et donc c'est vrai, mais il faut passer quand même à des actes, quoi.
Alors,
derrière,
il faut passer à des actes, et si je faisais référence à la fermeture des congrégations en 1905, oui. Ça veut dire que les actes, on a une loi, on a la loi de 1905 de côté, on a les ordonnances de 45 et de 49 sur la protection de la jeunesse. Moi, quand des filiales d'imams salafistes dont je parle dans mon livre, font que dans l'école coranique du samedi, des enfants de 5 ans refusent de donner la main à la maîtresse parce que c'est une femme, je dis que la République ne remplit pas sa mission. La République, elle a la mission de protéger ses enfants. Je veux dire, toute notre histoire est construite, tous nos monuments aux morts sont aux enfants morts pour la France. Je dis aujourd'hui, il faut frapper fort. Il faut pas se prendre les pieds dans constitution, etc. Il faut frapper fort.
Il faut du courage pour ça.
Il faut du courage politique, mais on a, j'allais dire, le chapitre 5 de la loi 1905, ça s'appelle de la police des cultes. Mmh. Donc, il appartient après de se donner les moyens. Et peut-être que les moyens seront importants.
Alors, qu'est-ce que vous disiez aussi aux parents d'élèves ? Parce que là, il y a quand même un rôle relativement important. Parce que dans les parents d'élèves, vous en avez de toute obédience. Et il y en a des musulmans, et il y a des musulmans qui sont contre ces dérives. Et heureusement, bien sûr, c'est la majorité, ces dérives islamistes. Mais eux-mêmes, comment ils réagissaient ? Quand vous disiez, il y a des choses insupportables qui se passent en classe. Parce que le nœud fondamental, il est là quand même. Quoi.
Le nœud fondamental, il est là. Ouais. Et moi, je me souviendrai toujours, si j'ai appelé mon bouquin « Imam de la République », c'est qu'à un moment, devant certaines familles qui n'avaient que comme référence culturelle les références de la religion, et on ne peut pas leur reprocher. Hein, j'allais dire, on a demandé à des gens de venir travailler, on ne les a pas forcément convertis aux règles de la République. Et à partir de ce moment-là, moi, je dis, j'ai un père d'élèves avec qui je m'entendais bien, qui était au conseil d'administration, on parlait souvent, il était croyant, mais surtout, j'allais dire, il disait, je ne demande pas à mes enfants de faire le ramadan à l'école, parce que ce n'est pas lieu de faire le ramadan. Et il me disait, si on va chercher dans les textes de la religion musulmane, si on va chercher dans le Coran et dans certaines sourates, il y a un texte qui dit, tu respecteras tes parents, ceux qui t'enseignent, alors ce n'était pas tout à fait exactement la bonne phrase, mais il le traduisait comme ça, comme les représentants du prophète. Mais je dirais que quelque part, à l'intérieur même, on parle de sacraliser la maison éducation nationale, mais je dirais que nos familles musulmanes, et moi, il y a quelque chose qui m'a énormément touché dans les hommages. C'est ce qui s'est passé avant-hier avec un certain nombre d'imams, comme l'imam de Drancy qui était là, qui ont été déposés, qui ont été se recueillir. Et ben, je dirais que ce message fort, pour moi, il me donne des frissons, parce que ça va être, à mon avis, la communauté musulmane qui va aider la République, et moi j'y crois très fort, il faut qu'on sorte de petits problèmes, parce que...
Oui, mais est-ce que la communauté musulmane vous aidait, vous, quand vous étiez dans votre établissement ?
Oui.
Oui, c'est vrai ?
Oui, oui. Un certain nombre de parents d'élèves, par exemple, se proposaient, quand un élève manquait de respect au professeur, des parents d'élèves élus, parce qu'on n'avait pas de fédération de parents d'élèves connus, donc c'était les bonnes volontés du quartier. On a par exemple des pères d'élèves qui, lors d'un conseil de discipline, traduisaient ce qu'on disait, ce que le conseil disait aux familles qui ne maîtrisaient pas le français. Je crois que pour certaines familles, musulmanes ou pas musulmanes, l'école et l'école de la République, l'école publique, est encore un symbole de réussite sociale. Et je crois qu'une de nos grandes réflexions, c'est de dire dans des quartiers qui sont défavorisés, il faut que l'école apporte des choses, mais il faut aussi qu'il y ait, vous savez, quand il y a des choix politiques, j'ai été élu local, quand on fait un choix dans une petite commune, en face, on met une colonne budgétaire. Et je crois que ces choix ont un coût, il faudra les assumer.
Et vos appels, 0826 300 300 avec Marie-Dominique qui est avec nous. Bonjour Marie-Dominique.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai deux sentiments, si vous avez, qui reprennent ce qui vient d'être dit, essentiellement, vis-à-vis de cette monstruosité qui s'est passée. Bien, nous sommes tous, évidemment, effarés. Mais moi, je suis à jeun, vis-à-vis de tous ces attentats, d'entendre une réaction massive de la part de nos compatriotes qui sont musulmans. Alors certes, il y a un imam qui a demandé pardon, c'est quand même la moindre des choses, hein, entre nous soit dit. Mais moi j'attends quand même de la communauté musulmane, hein, française, qu'elle soit massivement identifiée comme telle, à défiler avec nous dans les marches blanches. J'espère que dans les 5000 personnes hier à Conflans-Sainte-Honorine, il y en avait au moins 10%, je crois que nos compatriotes musulmans sont à peu près 10% de la population française, hein, qui soient là en tant qu'identifiés en tant que communauté musulmane, à dire non, ça suffit, nous sommes les vrais croyants, nous sommes croyants, hein, et ces gens-là ne sont que de vulgaires assassins. C'est une guerre qui est politique de Al-Qaïda, Daesh, enfin, toutes ces espèces de pieuvres qui ont des tentacules dans le monde occidental. C'est une question de guerre qui n'est pas du tout religieuse. Il n'y a pas des hordes de chrétiens contre des hordes de musulmans. C'est pas du tout ça, hein. Simplement, ces assassins, ces gens qui veulent prendre le pouvoir, se revendiquent de la religion pour avoir du poids sur les esprits. Bon. Moi, j'attends que la communauté musulmane réagisse massivement en condamnant les imams. D'abord, en condamnant les assassins, en disant ce qu'ils sont, et en les rejetant, en disant non, ce sont des assassins et rien d'autre. Deuxièmement, condamner et rejeter les imams, hein, qui soient en présence massive, de façon à montrer, hein, qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Parce que dans ma tête, à moi, il n'y a aucun amalgame. Ce ne sont pas du tout les musulmans de France qui sont les assassins. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas vrai. Ouais. Bon, ça, c'est la première des réactions. La deuxième des réactions, j'estime qu'on paye l'espèce de laisser-aller, je reprends là, finalement, le thème de ce qui vient d'être dit par le proviseur que vous venez d'interroger. J'estime qu'on paye cette déréliction d'un mot qui est à la limite, hein, de la malséance, qui est le patriotisme.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que le patriotisme, hein? C'est pas être fasciste. Je suis ni fasciste, ni nazi, ni raciste. Et on laisse à l'extrême droite, le soin de traiter ces réalités sociales. Je ne peux pas dire que ce soit des problèmes. Alors, les problèmes d'immigration, oula, c'est tabou. Et si jamais on parle de patriotisme, on vous regarde, mais même dans la société autour de nos amis, dans la rue, etc., quand on discute, patriote, comment ça? Alors, qu'est-ce que c'est être patriote? Pater, en latin, c'est le père. On est patriote français parce qu'on est né en France, et qu'on a sucé le sang de la République et de la démocratie et de la laïcité et de l'égalité et de la fraternité. Quand on veut nous faire entrer dans notre conscient, notre subconscient même, hein, les notions de solidarité, les notions de bio, d'éthique bio, de protection de la planète, on sait le faire. On est peut-être pas matraqué, mais presque. Dans ce domaine, maintenant, on ne peut plus y échapper. Personne ne peut y échapper. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose? Non, le patriotisme, ça n'est pas du racisme, ça n'est pas du fascisme, etc. Et on ne devrait pas laisser à l'extrême droite le seul soin de s'occuper de ça et de parler de ça, parce qu'on n'arrive même plus à parler de ça. On laisse tellement aller la France, de ce qu'est la France. Hein, bon, votre interlocuteur tout à l'heure parlait de la langue. Et ouais. Comment ouais. Et comment hein, quand il y a l'immigration, on accepte des gens de l'étranger parce que nous sommes, Dieu merci, le pays des droits de l'homme. Je ouais. crois pas qu'il y ait de pays autre dans le monde qui soit le plus attentif à ça, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire comme toujours. Hein, bon. Ouais. Sous prétexte de droits de l'homme, il faut tout accepter. Ouais. Mais non, bon. Non, je suis pas d'accord.
Ouais, votre discours rejoint un peu ce qu'on disait ce matin, tout au long du grand matin, y compris avec un représentant du printemps républicain qui était avec nous tout à l'heure à 8h10, hein, qui avait les mêmes mots que vous, hein, et on en a parlé aussi avec Annie Genevard hein, sur cette notion de patriotisme et de drapeau. On va continuer d'en parler dans un instant avec Bernard Ravet et Arlette Chabot qui est toujours avec nous, et nous serons aussi avec, puisqu'il évoque cette question un petit peu plus tard, Guillaume Bigot qui va sortir. Populophobie. Il sera avec nous dans quelques minutes.
Restez là, 9h19.